VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
John Linden en direct du studio 9 de VOA Africa, Washington. Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 décembre 2017. À la une, à l'Afrique du Sud, la lutte contre la corruption et la transformation de l'économie au cœur des priorités du nouveau président de l'ANC. L'attentat contre l'avion du président Juvénal Habyarimana en 94, les juges français ont bouclé leur enquête. Au Cameroun, condamnation en appel à 24 mois de prison ferme pour notre confrère Ahmed Abba. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, condamnée par l'Assemblée générale de l'ONU. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En Afrique du Sud, le nouveau président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, promet d'éradiquer la corruption et d'accélérer la transformation radicale de l'économie. C'était lors d'un discours prononcé aujourd'hui devant quelques 5000 délégués de l'ANC réunis pour la fin de leur conférence à Johannesburg. Jacques Aristide.
Pour Cyril Ramaphosa, qui est aussi l'actuel vice-président du pays, il faut également agir avec courage contre les accusations de corruption et d'abus de pouvoir dans les propres rangs de l'ANC. Conformément aux résolutions adoptées par la conférence, il a confirmé que son parti souhaitait modifier la constitution pour autoriser sous condition l'expropriation des terres sans compensation, un sujet très sensible en Afrique du Sud. Il a toutefois précisé que cela devrait se faire sans déstabiliser la production agricole ou l'économie. La majorité des terres appartient à la minorité blanche, alors qu'une grande partie de la majorité noire vit dans la pauvreté. Cyril Ramaphosa s'est réjoui que le parti de feu Nelson Mandela ait maintenu son unité malgré ses fractures. Il a devancé d'une courte tête sa rivale Kosazana Dlamini Zuma, ancienne épouse de Jacob Zuma. Ramaphosa fait désormais figure de favori pour devenir président à l'issue des élections de 2019. En attendant, la cohabitation avec Zuma risque d'être tendue de temps que les deux hommes entretiennent des relations difficiles.
Emmanuel Macron va fêter Noël avec quelques heures d'avance en compagnie des forces françaises déployées au Niger dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Cette visite intervient une semaine après un sommet sur le Sahel à Paris. Le chef de l'État français, et accompagné par la ministre des Armées, Florence Parly, se rendra à la base de l'opération Barkhane et à l'aéroport de Niamey où sont stationnés quelques 500 soldats français. Par ailleurs, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, en visite jeudi en Libye, a souligné la nécessité de l'application rapide d'un plan de l'ONU prévoyant un dialogue national et des élections en 2018 pour sortir le pays du chaos. Après Tripoli, où il a rencontré notamment le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez Al-Sarraj, le ministre français s'est rendu à Benghazi pour rencontrer le maréchal Khalifa Haftar, notre protagoniste de la crise libyenne. Le tribunal militaire de Yaoundé a condamné en appel le journaliste camerounais Ahmed Abba à 24 mois de prison ferme, mais il a déjà passé 29 mois en prison. Il avait été condamné en 2016 à 10 ans de prison pour blanchiment d'actes de terrorisme. Les juges ont retenu la non-dénonciation d'actes terroristes et l'ont infligé 24 mois de prison qu'il a déjà purgé. Il doit recouvrer en principe sa liberté. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Cameroun toujours, le dialogue demeure l'unique solution viable pour trouver une issue à la crise dans l'ouest anglophone du pays, où la récente flambée de violence indique la naissance d'une insurrection. C'est ce qu'estime aujourd'hui International Crisis Group pour ce think tank. Si cette insurrection se propage à d'autres départements où le sentiment séparatiste est fort, elle pourrait devenir ingérable. 2018 sera une année électorale au Cameroun. Au Tchad, le parti de l'opposant Salé Kebzabo a dénoncé hier le soutien de la communauté internationale au régime d'Idriss Déby au nom de la lutte contre le terrorisme. Dénonciation contenue dans un communiqué de presse où le parti de Salé Kebzabo appelle également à la tenue des élections législatives en 2018. Les juges français ont clos leur enquête sur l'attentat de 1994 contre le président Juvénal Habyarimana qui avait marqué le point de départ du génocide au Rwanda. On fait le point avec Yakuba Ouédraogo.
Il leur revient désormais au parquet de Paris de réclamer la tenue d'un procès ou l'abandon des poursuites contre les 7 personnes inculpées, toutes proches de l'actuel président Paul Kagame. Le 6 avril 1994, l'avion du président Juvénal Habyarimana, un Hutu, a été abattu à Kigali. Au Rwanda, une commission d'enquête a imputé la responsabilité de l'attentat aux extrémistes Hutus qui voulaient se débarrasser d'un président jugé trop modéré. En France, une enquête a aussi été ouverte après la plainte des familles de l'équipage français. Le premier juge saisi, Jean-Louis Bruguière, avait privilégié l'hypothèse d'un attentat commis par l'ex-rébellion Tutsi du Front patriotique rwandais. Deux des inculpés, dont l'actuel ministre rwandais de la Défense, le général James Kabarebe, ne se sont pas rendus à Paris. Les juges voulaient les confronter à un nouveau témoin qui dit avoir eu la garde des missiles au quartier général du FPR. De son côté, Kigali a diligenté une enquête accusant la France de complicité dans le génocide.
Des pirates ont kidnappé 10 membres d'équipage au large des côtes du sud-est du Nigeria. Le Bureau maritime international n'a pas révélé la nationalité des personnes enlevées. Le nombre d'attaques a fortement augmenté ces dernières semaines et 15 incidents ont été signalés. D'après une agence privée de surveillance des routes maritimes, 56 marins ont été enlevés cette année au large du delta du Niger. La police malienne a interpellé 16 personnes et saisi de nombreuses armes à l'université de Bamako à la suite de heurts entre groupes d'étudiants rivaux qui ont fait un mort et 2 blessés. En Côte d'Ivoire, un millier de militants ont reçu chacun 15 millions de francs CFA hier à Abidjan dans le cadre du plan de départ volontaire pour restructurer l'armée ivoirienne aux effectifs pléthoriques. 991 militaires sont concernés par ces départs. Ce départ n'est pas une sanction, a déclaré le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une déclaration condamnant la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le point avec Abdourahmane Dia.
128 pays ont voté pour, 9 contre et 35 se sont abstenus. En prenant la parole avant le vote, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a réitéré ses menaces aux pays qui voteraient en faveur de la résolution. Elle a indiqué que les États-Unis se souviendraient de ce vote. Nikki Haley a déclaré que la décision est déjà prise et qu'aucun vote aux Nations Unies n'allait changer cela. Hier, elle avait déclaré que son pays allait noter les noms de ceux qui voteraient pour condamner la décision américaine de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Le président Trump lui avait emboîté le pas. « Laissez-les voter contre nous, nous économiserons beaucoup et cela nous est égal », avait-il dit hier. De son côté, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a affirmé lors des débats ce matin à New York que son pays ne sera jamais chassé de Jérusalem. La plupart des intervenants représentant des pays à majorité musulmane ont soutenu la déclaration introduite par l'Égypte.
Au Yémen, le nombre de cas suspects de l'épidémie de choléra atteint la barre du million. Le CICR estime qu'il s'agit de l'une des plus graves épidémies de choléra dans le monde depuis 10 ans. L'OMS chiffre de son côté près de 914 000 cas. Les Catalans votent pour décider si les indépendantistes doivent revenir au pouvoir dans leur région, 2 mois après la proclamation d'une République de Catalogne mort-née. Nathalie Barge.
Quelques 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 1 million d'indécis peuvent faire basculer le scrutin. Le décompte des bulletins papier glissés dans des enveloppes se fera manuellement. Madrid a évité un processus informatisé pour écarter toute attaque informatique. Le décompte officiel commencera le 24 décembre pour durer au maximum 3 jours. Les résultats seront annoncés par Indra, une société privée qui a la charge de les collecter, les compiler et les annoncer au public au fur et à mesure de leur transmission. L'association indépendantiste catalane va déployer dans les bureaux de vote 4 000 volontaires pour surveiller le dépouillement. Il y a deux mois, 70 députés catalans sur les 135 du Parlement avaient autoproclamé l'indépendance de la Catalogne. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, avait alors mis la région sous tutelle, destitué le gouvernement séparatiste et convoqué ce scrutin, estimant qu'il permettrait un retour à la normalité.
Le ministre américain de la Défense, James Mattis, s'est rendu sur la base militaire de Guantanamo pour la première fois. 41 prisonniers arrêtés après les attentats du 11 septembre 2001 sont encore incarcérés. Le président cubain Raúl Castro cédera son poste en avril 2018. L'annonce a été faite par l'Assemblée nationale après avoir voté un report de deux mois du scrutin devant désigner son successeur. L'élection par l'Assemblée nationale du Conseil d'État, lui-même chargé d'élire le président, a été fixée au 19 avril selon les médias d'État. Donc le départ de Raúl Castro mettra un terme à six décennies de pouvoir des frères Castro. Et puis cette information dont on parlait en début d'émission, donc à savoir qu'après le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une déclaration condamnant la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Dico.
Au Sénégal, le gouvernement a annoncé la suspension de la taxe sur l'exportation de l'arachide afin de faire revenir les acheteurs chinois. Ces taxes à l'exportation s'élevaient à 40 francs CFA par kilogramme pour l'arachide décortiqué et 15 francs CFA pour l'arachide en coque. Instituée en 2016 pour permettre une meilleure transformation des produits dérivés de l'arachide, elle avait causé le départ des marchands chinois et donné lieu à une incapacité des producteurs sénégalais à écouler leurs stocks. L'arachide mobilise plus de 60% des producteurs ruraux du pays. Au Burkina Faso, la taxe sur le tabac passe de 30 à 45%. Cette augmentation survient dans le cadre du nouveau code des impôts adopté par l'Assemblée nationale le 20 décembre. Fatou Rosine Koulibaly, la ministre de l'économie et des finances, a eu l'occasion d'exposer les mérites de ce nouveau code. Elle a également souligné que la hausse de la taxe sur le tabac a pour objectif d'aligner le Burkina Faso sur les normes de l'UMOA et aussi d'accroître les ressources fiscales et de mettre en avant l'impératif de santé des Burkinabés. En Côte d'Ivoire, troisième producteur africain de café derrière l'Éthiopie et l'Ouganda, le gouvernement a décidé de maintenir le prix du kilogramme de fèves de café séchées et décortiquées à 750 francs CFA pour la campagne 2017-2018. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné, a précisé que pour garantir ce prix aux paysans, les autorités ont dû consentir à une subvention de 12 milliards de francs CFA.
Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors on commence par la FIFA qui nomme un comité de normalisation à la tête de la Fédération malienne de football.
Après le Cameroun, c'est au tour du Mali d'être sanctionné pour la mauvaise gestion de son football. La FIFA a nommé un comité de normalisation pour gérer les affaires de la FEMAFOOT et ce comité doit organiser les élections de son nouveau comité exécutif d'ici le 30 avril prochain.
En Angleterre, sale soirée pour Manchester United.
Les Red Devils qui tombent sur une équipe de deuxième division, Bristol, qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue après sa victoire hier soir 2-1. Ibrahimovic avait pourtant égalisé sur coup franc, mais ça n'a pas suffi. Quant à Morata, il a offert à Chelsea sa qualification pour les demi-finales aux dépens de Bournemouth, 1-0.
En Allemagne, le choc Bayern-Dortmund tourne à l'avantage des Bavarois, Nicolas.
Irrésistible en première période, le Bayern Munich a éprouvé davantage de difficultés en seconde mi-temps. Mais ce sont bien les Bavarois qui s'imposent 2-1 face à Dortmund et se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne.
Le PSG part en vacances avec le sourire.
Paris qui va pouvoir passer les fêtes bien au chaud. Nouvelle victoire 3-1 contre Caen avec des buts de Cavani et Mbappé. Leader incontesté de la Ligue 1, le club parisien conserve 9 points d'avance sur ses poursuivants au classement, Monaco et Lyon, et ce après 19 journées.
Et un peu de basket africain dans ce journal, Nicolas.
Oui, la formation marocaine de l'association sportive de Salé a remporté la Coupe d'Afrique masculine des clubs champions de basketball à Tunis. En finale du tournoi, la SSS est venue à bout de l'étoile sportive radésienne, 77 à 69, et un peu plus tôt, l'Union sportive monastirienne avait fini troisième en battant 77-74 le Sport, Libolo et Benfica. C'est un club angolais.
Et on va terminer par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Même les 51 points de James Harden n'ont pas suffi. Les Lakers de Los Angeles ont mis fin à la série de 14 victoires d'affilée des Rockets de Houston en s'imposant 122 à 116. San Antonio s'est de nouveau montré solide, 11e victoire en 14 matchs en déplacement, en battant Portland 93 à 91. Denver a chuté dans sa salle contre Minnesota 104 à 112. Et à Oklahoma City, le Thunder de Russell Westbrook a écrasé Utah 107 à 77.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Linden, mise en onde par Lionel Gaïma. Place à présent au dossier du jour. Suite de la tournée ouest-africaine du cheikh Ben Ahmad Al Thani, après le Sénégal, le Mali et la Guinée vont accueillir l'émir du Qatar 6 mois après le début de la crise avec plusieurs pays du Golfe. Pour mieux comprendre les enjeux de cette visite, Claire Morin-Gibour a joint à Doha la rédactrice en chef de la radio Qatari Oryx FM, Ouda Bouchaïb.
Pour le Qatar, il s'agit de diversifier un peu ses partenaires et son économie, surtout après le siège dont il a été victime depuis maintenant 6 mois. Et l'Afrique, que le Qatar considère comme un continent avec de grands potentiels économiques, est une cible très importante.
Une escale au Mali est prévue. Est-ce que cela vous surprend et quelles sont les réactions alors que le Qatar a été accusé plusieurs fois de soutenir les djihadistes maliens?
Oui, le Qatar a effectivement été accusé de soutenir les djihadistes, pas que maliens d'ailleurs, hein, tous les djihadistes de la planète. Mais à ce jour, aucune preuve formelle ni tangible n'est venue étayer ces accusations. Le discours des autorités est très clair en ce sens. Hein. Et à tous les coups, il rappelle que si des partis, si des associations, si des États avaient des preuves, ben, qu'ils les avancent. Et pour preuve, le Qatar participe avec d'autres États, comme les États-Unis ou la France, par exemple, pour la lutte contre le terrorisme.
Quelles sont pour vous les retombées économiques de cette tournée africaine?
Cette première étape des visites de l'émir ne sont pas la première démarche en soi. Hein. Le Qatar entretient avec le continent africain plusieurs relations et des relations économiques. Il ne faut pas oublier que le Qatar, depuis quelques années, a beaucoup investi dans l'agriculture et a beaucoup acheté des terres agricoles en Afrique. Hein. Il s'agissait pour le Qatar de répondre à sa sécurité alimentaire, hein, assurer cette sécurité alimentaire. Et ça s'est vérifié depuis quelques mois, hein, depuis le siège. Et le Qatar a dû se tourner vers d'autres pays pour justement diversifier son alimentation et ses importations. Parce qu'il faut savoir que le Qatar est obligé d'importer une très large part des denrées alimentaires qu'il consomme. Hein. Et avant cela, tout se faisait via l'Arabie Saoudite ou alors les Émirats. Mais depuis le siège, hein, depuis que ces pays voisins ont fermé leurs frontières terrestres, maritimes et aériennes, le Qatar s'est vu obligé de voir ailleurs, l'Iran par exemple, ou Oman, et importer donc des produits alimentaires à travers les ports de ces pays. J'ai cité l'Iran, j'ai cité Oman, et j'ai oublié la Turquie bien sûr.
Nous avons accueilli avec beaucoup de soulagement le verdict de ce jour.
Il s'agissait donc de Ouida Bouchaïb, rédactrice en chef de la radio Oryx FM. Elle était jointe à Doha. Au Cameroun, Ahmed Abba, correspondant de RFI en Langaoussa au Cameroun, a été acquitté aujourd'hui de blanchiment de produits d'un acte terroriste, mais condamné à 24 mois de prison pour non-dénonciation, autant pour moi, par le tribunal militaire de Yaoundé. Ahmed Abba a déjà passé 29 mois en prison. Il avait été arrêté en juillet 2015 à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, où il couvrait la situation des crises liées à Boko Haram. Selon Niamoulissa, adjoint Denis Kouébo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun.
Nous avons accueilli avec beaucoup de soulagement le verdict de ce jour. Ahmed Abba sera enfin libre. Il établit qu'Ahmed Abba ne s'est pas rendu coupable d'actes de terrorisme et qu'il n'était pas de connivence avec Boko Haram. Le chef d'accusation qui est resté et qu'il y a valu 24 mois de prison ferme est un chef d'accusation assez fallacieux parce que accuser un journaliste de non-dénonciation relève quand même d'un peu de folie. Les autorités camerounaises disposent des éléments de police, de gendarmerie, de l'armée et d'autres services spéciaux pour avoir les informations dont elles ont besoin. À ce moment-là, ce n'est pas le rôle des journalistes de dénoncer quoi que ce soit. Protection des sources, c'est un principe sacré. Ce n'est pas seulement ici que c'est valable partout dans le monde. Et un journaliste qui défend la vérité doit être prêt à aller en prison pour la vérité. Donc notre soulagement vient du fait que notre confrère n'a commis aucune faute professionnelle.
Pourquoi Ahmed Abba est jugé dans un tribunal militaire?
Ahmed Abba a été jugé devant le tribunal militaire de Yaoundé parce que les actes liés au terrorisme ne relèvent pas de la compétence du tribunal militaire. Et nous, le syndicat national des journalistes du Cameroun, on disait dès le départ que la place d'un journaliste n'était pas devant un tribunal militaire. Mais à ce moment, au début, personne ne nous a écoutés. Les autorités de poursuite ont estimé que Ahmed Abba aurait commis une faute suffisamment grave. Et généralement, les gens sont poursuivis devant le tribunal militaire parce qu'ils n'auront pas la marge de manœuvre nécessaire pour l'espace se défendre. En traînant Ahmed Abba devant le tribunal militaire, le pouvoir camerounais a voulu faire peur à tous les journalistes. C'était volontairement créer de la psychose pour empêcher aux journalistes de faire librement leur travail dans les régions frappées par l'insécurité.
Que faites-vous pour prévenir qu'une telle situation ne puisse pas se répéter? Parce qu'il y a des journalistes qui vont continuer à couvrir les combats de Boko Haram dans cette zone.
Le syndicat national des journalistes du Cameroun a fait beaucoup de travail en direction des autorités. Vous vous souvenez que personnellement, moi, le président du syndicat, j'ai été attaqué à mon domicile avec une voiture incendiée. J'ai risqué ma vie en rapport avec la couverture que je faisais sur cette zone-là. Mais nous avons également fait beaucoup de travail pour que nos confrères puissent accéder à cette région en discutant avec certaines autorités qui, au fur et à mesure que nous intervenions, ont compris la nécessité pour les journalistes d'être présents pour raconter la vérité de la guerre. Et le verdict qui a été rendu par la cour d'appel de Yaoundé permet de dire aujourd'hui que les journalistes ne font pas de mauvaises choses sur le terrain, ils font leur travail en tout professionnalisme. C'est un verdict qui est sans précédent pour la suite et nous allons utiliser, n'est-ce pas, le corpus de ce verdict-là pour amener d'autres journalistes à ne pas avoir peur et à être sur le terrain.
Denis Kouébo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, la famine menace plus de 600 000 personnes. C'est le constat qui ressort du bilan de la campagne agricole 2017-2018. Les pluies ont été capricieuses et les parasites sans pitié. Les yeux sont donc tournés vers le gouvernement qui a prévu une batterie de mesures pour juguler le problème. Les détails avec Zoumana Onogo.
Dépendant essentiellement de la pluviométrie, la saison agricole 2017-2018 a été marquée par des pluies précoces qui se sont arrêtées tout aussi précocement. Ici, à cela, il faut ajouter les attaques des chenilles légionnaires et des oiseaux granivores. Les conséquences se sont vite fait sentir sur la production céréalière. Suivons avec le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouédraogo, le bilan chiffré de la campagne 2017-2018.
La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2017-2018 est estimée à 4 552 277 tonnes. Cette production est en baisse par rapport à la campagne agricole précédente. La production prévisionnelle rapportée aux besoins de consommation céréalière font ressortir un déficit brut estimé à 72 677 tonnes. 17 provinces déficitaires. Au regard de cette situation sur la période de soudure, 620 394 personnes seraient en insécurité alimentaire.
Au moins 90% des Burkinabés viennent du milieu rural. Alors, quand ça ne va pas dans ces milieux, les regards sont vite tournés vers les citadins. Une angoisse que partage ici Achille Sanou, employé dans une mine d'or.
Je suis plus basé en province même qu'à Ouara et je vois que vraiment, en province, c'est pas vraiment facile. Avec la pluie, cette année, ça n'a pas du tout été ça. Nous, les travailleurs en ville, quand la saison est bonne, on soutient les parents. N'en parlons pas que maintenant, ça ne va pas. Je ne sais pas comment on va se débrouiller, mais Dieu est grand. Mais ça va nous chauffer un peu.
Boukari Drogo est, lui, commerçant de son état. Et pour lui, il faut une réaction rapide au niveau gouvernemental. On l'écoute.
Pendant la saison hivernage, bon, on a vu que la pluie était faible. Effectivement, ce qui a créé est arrivé. Parce que pourquoi? Nos paysans ont des problèmes. Problème puisqu'il n'y a pas de choses à mettre dans la gorge. Parce que rien n'a réussi. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose, bon, on a essayé de faire. Cette année, c'est dur partout. Donc, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour qu'on puisse sauver les paysans.
Justement, pour faire face à la situation, le gouvernement entend prendre une série de mesures. Voici les détails avec le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouédraogo.
Cette année en particulier, il nous incombera d'accroître la résilience des ménages au stress alimentaire. Pour ce faire, le maintien et le renforcement des opérations de vente de vivres à prix subventionné dans les boutiques témoins de la Sonagesse demeure prioritaire. Le plan de riposte à l'insécurité alimentaire, doté de plus de 700 millions de francs CFA pour l'année 2017 sera renouvelé afin de faire face au déficit actuel. Ce plan va consister à des opérations de distribution gratuite, de vente à prix subventionné de vivres, à la remise de cash et à l'octroi d'intrants agricoles aux ménages vulnérables.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Faible engouement des quinoa dans les grands marchés de la capitale de la RDC à l'approche des fêtes de fin d'année. Vendeurs et clients se plaignent de la crise économique et sociale que traverse le pays et les commerces tournent au ralenti malgré les assurances des autorités. C'est le constat fait par Thierry Kamboudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous sommes au plus grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, situé au centre-ville de la capitale de la RDC. Ici, à cette période, il fut difficile de circuler librement dans les années précédentes, suite au nombre impressionnant de personnes qui viennent s'approvisionner pour les fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. La circulation est fluide, boutiques et magasins très peu animés, et les vendeurs se plaignent. Comment nous préparer alors qu'il n'y a pas d'argent? Les clients ne viennent pas. Regardez comment on est assis. On passe des journées entières sans vendre. Nous ne vendons pas. L'argent ne circule pas. Les magasins sont vides. Même les articles comme les habits qu'on vend bien généralement en cette période ne marchent pas. Nous vendons pourtant tout ici. Les téléviseurs et tous les autres articles. Mais présentement, le marché est sevré des clients. Difficile d'attraper des clients suite à la conjoncture compliquée que traverse le pays. Les parents, censés offrir des cadeaux aux enfants en cette période, évoquent également la crise qui risque de gâcher la fête.
Il n'y a pas moyen, donc pour moi la fête, bon, c'est pas aujourd'hui la fête. Hein. Pour moi, c'est pas aujourd'hui la fête. Et vu la conjoncture, bon, Je vois les gens tranquilles. Hein. Bientôt, c'est la fête. La fête de Noël. Oui, il y a Noël. Mais Noël, Noël à ventre famé.
Les deux côtés, on tente donc de trouver des explications pour expliquer cette situation. Si certains pensent que c'est la dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur le marché de change qui est à la base de la surchauffe des prix observés sur le marché, d'autres par contre l'attribuent à la faible production des produits de consommation dans une RDC dont le marché vit essentiellement de l'importation ou encore au taux de chômage très élevé et à la modicité des salaires des fonctionnaires. Au micro de VOA Afrique, le ministre d'État en charge de l'économie reconnaît la difficulté que traverse le pays au plan économique. Et tout en promettant une amélioration future, Joseph Kapika rassure tout de même qu'il n'y aura ni rupture de stock, ni hausse de prix en ce qui concerne les produits alimentaires.
Nous avions eu toutes les assurances qu'il n'y aurait ni rupture de stock, ni hausse de prix. Nous avons la même assurance en ce qui concerne les produits alimentaires de manière générale, sauf la farine de maïs.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
C'est la fin de ce journal présenté par John Linden. Lionel Gaïma était à la production, Dan était à la console. Merci d'avoir suivi. Nous vous laissons en compagnie de Washington Forum avec Ekia Badou. Bonsoir.